quelque chose qui est très 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 particulier, et c'est là-dessus que commencent les premiers mouvements environnementaux. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Pour en venir au développement durable. Parce que ces premiers mouvements environnementaux, ils se sont constitués sur la base d'une contestation de l'ordre établi, ou plutôt de la manière dont la société fonctionnait. Vous avez entendu, sans doute entendu parler, peut-être pas, d'Ignatius Sachs, et c'est ce qu'on appelle le zégisme, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, déjà à l'époque, qui disaient « Finalement, la croissance qui est la nôtre n'est pas convenable, on va dans le mur. Il faudrait changer nos modes de production, et donc il faudrait aller, on ne parlait pas de décroissance, c'est-à-dire une croissance zéro à l'époque. Et il faudrait peut-être rééquilibrer les richesses entre les pays du Nord et les pays du Sud. » Et cette contestation radicale de notre mode de fonctionnement, qui était extérieur aux partis politiques traditionnels, a pris de l'ampleur. A pris une ampleur suffisamment importante pour qu'elle apparaisse comme quelque chose qui était un petit peu, comment dire, déstabilisant pour l'ensemble. On va dire ça comme ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1983, l'ONU a chargé la ministre, première ministre norvégienne de l'époque, qui était Gro Harlem Brundtland, c'est pour ça qu'on parle de rapport Brundtland, de mettre en place, d'écrire un rapport dans lequel, eh bien, il s'agissait de donner une planète vivable, habitable et en bon état aux générations à venir, tout en maintenant nos modes de vie et de production. C'est la réponse du berger à la bergère. D'accord ? Ça veut dire pourquoi je vous ai dit tout ça ? Pour vous dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct, mais qui est la vérité, à savoir que le développement durable n'est pas la continuité des politiques environnementales. Il y a une rupture entre les deux. Le développement durable, c'est la réponse institutionnelle mondiale aux mouvements de gestion de l'environnement, aux mouvements politiques environnementaux qui se sont développés à l'époque. Dans un cas, on prône une croissance zéro, voire une décroissance. Dans l'autre cas, on décide de maintenir nos modes de production. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit ça et on ne nous dit pas d'habitude? Parce qu'il y a simplement les intérêts des uns et des autres là-dedans, et c'est bien normal. Pour un écologiste politique, voir débouler le développement durable dans le terrain politique, c'est inquiétant parce que ça enlève toute légitimité à l'action. Donc on incorpore le développement durable dans la gestion de l'environnement. Pour, je caricature, le gros industriel pollueur, récupérer la gestion de l'environnement, ça lui donne une histoire, une épaisseur, des racines, une continuité. En réalité, entre les deux, il y a vraiment une rupture. Et elle n'est pas évidente à combler. Ça, c'est un premier point qui, je crois, qui me paraît important à dire. Alors, ça ne veut pas dire que je trouve ça inintéressant, hein, et ça ne veut pas dire que ce fossé est irréconciliable. Sinon, je ne serais pas là, et sinon, je ne travaillerais pas là-dessus. Hein. La réalité est évolutive. Donc, évidemment, actuellement, on n'est plus dans ce contexte-là. Mais quand même, il faut s'en rappeler, parce que c'est la genèse de ce développement durable, et ça a de l'importance dans un certain nombre de débats qu'on voit actuellement, et sur lesquels on reviendra peut-être avec les questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante sur ce développement durable, c'est l'idée. Est-ce que certains connaissent ici peut-être le, comment on dit, développement durable en anglais? Parce que ça a été écrit en anglais au départ. Sustainable development. Et sustainable development, ça veut dire quoi? Ça veut dire développement durable, les amis? Non, pas du tout. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut même pas dire développement soutenable. Parce que c'est un faux avis. Ça veut dire un développement qui peut se maintenir, que l'on peut sustain, c'est maintenir, que l'on peut maintenir dans le temps. C'est ça que ça veut dire. Alors pourquoi diable on a traduit développement durable en français? Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a l'affiche? Vous allez voir. Eh bien, c'est bien, j'ai là des lycéens et des prépas, donc vous savez tous, une grande caractéristique de nos théorèmes en mathématiques en particulier, c'est que tous les théorèmes mathématiques sont des théorèmes à deux noms. On dirait vraiment qu'ils ont été inventés par des jumeaux. Cauchy-Schwarz, Bolzano-Weierstrass, enfin il y en a plein. Il y en a même qui disent que Einstein, en fait, ce qu'il a découvert, c'était pas lui, c'est grâce à Poincaré. On a une seule manie chez nous qui est de trouver toujours quelqu'un, auparavant, français de préférence ou assimilé, qui va mettre son nom à côté et qui permettra de faire que ce théorème soit un petit peu français. Bien. C'est une attitude assez déplorable, mais c'est comme ça. Et alors il se trouve qu'en 1970, c'est les cacahuètes, il y avait l'Union internationale pour la conservation de la nature qui s'est réunie à Founex. C'est rigolo comme nom. Et à Founex, et son objectif était, il avait des parcs nationaux à gérer, vous savez, la Vanoise, tout ça. Et pour gérer ces parcs nationaux, eh bien, il cherchait un moyen d'avoir, comment dire, une gestion endogène. Endogène, ça veut dire, on essayait de faire en sorte que le parc soit autosuffisant, c'est-à-dire que l'on puisse maintenir la gestion de la faune sauvage et la gestion du parc grâce à des revenus qui venaient du parc. Et comme ces parcs, à l'époque, n'étaient pas ouverts aux touristes, il fallait trouver des moyens, à travers la gestion du cheptel, à travers des ressources ou autres dérivées, pour faire une gestion endogène de cet ensemble. Ça n'a rien à voir avec le développement durable, à part que ça dure un peu. Et ce développement des parcs avait été appelé développement durable. Et donc les Français se sont dit, officiellement, traduisons en développement durable. Comme ça, on aura une intériorité d'une vingtaine d'années. Ce que l'on fit. Le problème, c'est que dans le milieu universitaire et ailleurs, vous savez, nous, il faut publier, sinon on est mort. Alors, il y a des collègues qui se sont dit, développement durable, c'est pas ça. Mais comme ils avaient une connaissance d'anglais un peu, pas forcément hyper développée, ils se sont dit, c'est développement soutenable. Et on a commencé à écrire des trucs et à se, comment on dit, prendre la tête, à écrire les uns et les autres des articles disant que la bonne traduction c'est durable et que la bonne traduction c'est soutenable. Pour l'instant, ça ne présente aucun intérêt. Si. Parce que ce qui est durable, au bout d'un moment, à force, il y a eu deux grandes écoles de pensée qui se sont mises en place. L'une disait, le développement est durable parce qu'il faut qu'il dure dans le temps. C'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on appelle l'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire que moi, je vais transmettre à mes enfants, aux autres personnes, aux générations à venir, une planète en bon état. C'est ça qui est important. Et ceux qui étaient dans le développement soutenable disaient « Pas du tout !» L'important, c'est que ce soit dans l'espace soutenable. C'est-à-dire, l'important, c'est que les écarts de richesse et les écarts dans l'exploitation des ressources dans le monde soient tels qu'il n'y ait pas d'injustice et que les gens ne soient pas lésés. Donc, ce qu'on appelle l'équité spatiale. En réalité, c'est un faux débat. Parce que dans le développement durable, il y a l'équité spatiale et l'équité intergénérationnelle. Vous êtes censé transmettre une planète en bon état à vos successeurs, à ceux qui viendront après vous, et également être dans une logique d'équité spatiale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas une misère éhontée ou qu'on n'ait pas ce qu'on appelle de la durabilité importée. Le problème, c'est que en dissociant comme ça artificiellement les deux aspects, eh bien, on a eu politiquement un véritable effet d'aubaine pour un certain nombre de pays qui étaient pauvres et qui se sont dit « Ah mais regardez, puisque les spécialistes nous le disent, nous on ne peut pas faire du développement durable, vous comprenez, parce qu'il faut qu'on se développe. Donc on va faire du développement soutenable. Donc on va produire, polluer, mais ça c'est pas grave parce que ça nous permet d'être à niveau et de s'enrichir et d'arriver au niveau des autres pays. » C'est, pendant longtemps, ça a été le discours de la Chine, par exemple. Donc vous voyez, cette petite querelle étymologique, ça a eu des conséquences énormes sur le plan de l'application du développement durable. Énorme. Alors je vous rappelle quand même que équité, c'est pas l'égalité. Hein. Quand on parle d'équité intergénérationnelle, l'équité, le synonyme de l'équité, c'est quoi? C'est la justice. C'est justice entre générations ou justice spatiale. Un procès équitable, c'est un pense-bête, c'est pas un procès où celui qui a tué et celui qui s'est fait tuer ont la même peine. C'est un procès qui est juste, qui donne la bonne peine à la personne qui a commis un crime, par exemple. D'accord? Ça, c'est un procès équitable. Voilà. Donc, voilà comment se développe ce développement durable, dans un contexte assez particulier. Alors, à partir de là, 36, ça va, je suis dans les temps. Moi, je voudrais... Alors, il y a dans le développement durable, parce qu'il s'est constitué, on vient de le voir, il s'est mis en place, dans une situation assez confuse et, il faut bien le dire, totalement instrumentalisée, politiquement, de tous les bords d'ailleurs, parce qu'il était en rupture avec les gestions de l'environnement auparavant, c'est quelque chose qui est tout à fait... enfin, qui est bourré de contradictions. Voilà. Alors, là, on a deux attitudes. La première attitude que je peux avoir, c'est de dire, bon, bah, puisque c'est bourré de contradictions, je ne m'y intéresse pas, ça ne présente aucun intérêt, je laisse tomber et c'est bon. Première possibilité. La deuxième possibilité, celle de l'autruche, je trouve que c'est un bon pactole sur le plan de la recherche et sur le plan des applications, c'est à la mode, donc je surfe sur la vague et je fais semblant d'ignorer qu'il y a des problèmes. Je pense que c'est deux solutions qui sont totalement irresponsables. Parce que qu'on le veuille ou non, la planète est quand même en mauvais état. Qu'on appelle ça gestion de l'environnement ou développement durable, je m'en fiche, on a quand même un problème à terme dont le changement climatique n'est qu'une manifestation de bien d'autres problèmes de ségrégation spatiale, d'utilisation des ressources naturelles à outrance, qui posent de réels problèmes pour l'avenir. Donc je ne peux pas me satisfaire, moi, de ces deux, de ces deux possibilités. Il y en a une troisième, qui est de dire... Des vrais problèmes sont posés, mais on n'a pas les vraies réponses. Alors, on va essayer de trouver les vraies réponses, et pour ça, on va faire ce qui devrait toujours se faire, mais ce qu'on appelle les sciences humaines, sociologie, l'aménagement, l'urbanité, la géographie, ne font pas en général. Vous savez, chez nous, on a un ego surdimensionné, ça ne se voit pas, mais c'est le cas. Enfin, moi, j'essaye de ne pas en avoir trop, mais je dois en avoir comme tout le monde. Et on a tendance à considérer qu'il faut toujours valoriser ce que l'on fait en niant ce que les autres font. À chaque fois qu'une théorie présente un problème, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est mauvais, on fait la sienne. La différence, et là en sciences exactes, c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est que lorsque dans des sciences exactes, on voit qu'il y a un problème, on se dit quel est le problème, et on utilise la théorie auparavant pour résoudre ce problème. Einstein, il n'a pas dit Newton, c'est caca, je vais faire mon truc dans mon coin. Il a dit « Newton a un problème avec la vitesse de la lumière, ça ne marche pas parce que la vitesse est constante, que ça ne peut pas traverser un éther, enfin, il y en a qui savent peut-être ici ceux qui sont en prépa, et à partir de là, il a réfléchi longtemps pour développer la théorie de la relativité. » Et bien moi, ce que je me dis, c'est qu'on peut partir des contradictions du développement durable, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et essayer de résoudre les contradictions de l'intérieur. C'est pour ça que mon sujet de travail, c'est le développement durable. Alors si vous voulez, moi, il y a trois contradictions dans le développement durable. Trois contradictions que moi j'appelle, c'est un gros mot mais c'est pas grave, structurelles. C'est-à-dire qu'elles sont, elles font structurelles, c'est-à-dire que ça fait partie de la structure. C'est-à-dire qu'elles sont dans le développement durable. Hein? Elles sont engluées dedans. On ne peut pas aller au-delà dans les questions de développement durable si on ne répond pas à ces trois problèmes. Le premier problème, c'est le... Alors vous allez me dire, là aussi, il est encore en train de jouer sur les mots, mais non. C'est la notion de développement durable elle-même. Vous savez, ici, il va y avoir des gens qui font de l'économie aussi, de la gestion, d'autres qui font des maths, d'autres qui font de la biologie. Et tous ces gens savent bien que le développement, ce qui fait le développement, c'est quoi? C'est que les structures changent. Un développement embryonnaire, un embryon qui se développe pourquoi? Parce qu'il change, il grandit pas seulement. Il y a des bras qui poussent, il y a les dents, il va donc se développer, c'est-à-dire changer sa structure, sa forme aussi. Le développement en économie, c'est une modification de structure. Si vous n'êtes pas en développement, vous êtes en croissance. Si c'est quantitatif, c'est de la croissance. Si c'est qualitatif, c'est du développement. Donc le développement, c'est forcément quelque chose qui change. Et durable, bah, ça paraît idiot, mais c'est que ça dure. Alors comment est-ce que ça peut changer tout en durant? Alors je ne sais pas, soit c'est la révolution permanente, donc on change tout le temps. Soit c'est... Alors, il y avait ça à une époque, oulala, vous n'étiez pas nés, il y avait des élections, c'était le changement dans la continuité. C'était un slogan. Mais moi, franchement, au quotidien, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut changer tout en ne changeant pas. Alors, vous allez me dire, mais et alors, c'est quoi l'intérêt de ce truc? C'est qu'en règle générale, quand on parle de développement durable, ce dont on parle réellement, c'est de croissance durable. C'est-à-dire que le discours du développement durable vise... Parce que c'est un peu l'héritage de 83 et de la mission qui avait été confiée à Brundtland, vise à ne pas modifier nos modes de production, mais pas seulement nos modes de production, notre projection dans l'avenir, qui est une projection de croissance quantitative. Plus de biens, plus de choses, plus d'utilisation de nos biens de consommation, et plus d'enrichissement de tout le monde, et de rendre cela durable. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un petit problème. Les ressources ne sont pas inépuisables, tout le monde ne peut pas être riche, l'univers ne peut pas... Enfin, voilà. Il y a un vrai problème dans cette dénomination qui peut s'appliquer aussi avec la forme anglaise sustainable, parce que si ça se maintient, pareil, ça ne peut pas durer, enfin, ça ne peut pas se développer. Ça, c'est une première contradiction qui pose des problèmes. Ça veut dire dans quel cadre politique on pense le développement durable, vers quelle société on veut aller. Actuellement, le problème pour l'environnement, ce n'est pas que l'on sera tous morts. On en parlait tout à l'heure dans l'avion. Ce n'est pas ça le problème. Je vous rassure, on ne sera pas tous morts à l'avenir. Même si la planète devient un enfer, ben nous, on sera des forçats dans l'enfer, mais on ne sera pas tous morts. Il risque d'y avoir des cataclysmes effectivement importants, mais si notre société, soyons cyniques, se rigidifie de plus en plus, si nous acceptons de vivre dans des contraintes environnementales et policières beaucoup plus fortes, si nous avons une attitude beaucoup plus hostile à l'égard de l'extérieur, on va survivre. On va survivre. En tant qu'espèce, on va survivre. On n'est pas des ours blancs. Est-ce que vous avez envie de survivre dans un univers qui vous apporte semi-concentrationnaire dans lequel vous allez être obligé de mesurer tout ce que vous faites? C'est ça la question. C'est pas si on va survivre ou si la planète va survivre. C'est est-ce que l'avenir que l'on a correspond à la vision que l'on a envie d'avoir de l'avenir? Et ça, la question du développement durable, croissance durable, je vous assure, elle est importante. C'est une contradiction à laquelle il vaudrait mieux répondre avant de s'engager dans des projets à long terme. La deuxième question, très importante, on vous le dit comme une évidence, dans le développement durable, vous avez dû avoir ça aussi dans les cours, etc., c'est normal, tout le monde dit ça. Ça consiste à articuler le global et le local. Vous savez, penser globalement, agir localement. C'est bien, c'est élégant, c'est joli, c'est simple à comprendre, et comme toutes les choses extrêmement simples, c'est souvent idiot. Voire stupide. Alors on va jouer, je vous parlais d'Einstein tout à l'heure, on va jouer à Einstein, on va faire une petite expérience facile. Vous êtes, il y a bien une grande place à Antibes avec des pigeons et des choses comme ça, des bars, il y a ça à Antibes. Comment elle s'appelle ?
Place de Gaulle.
Place de Gaulle. Place de Gaulle. Donc dans la place de Gaulle, vous avez une place, vous avez des pigeons, etc. Maintenant, imaginez-vous à l'intérieur de cette place. Cette place, pour vous, est un espace. Ça veut dire que vous pouvez vous y déplacer. Selon une métrique de l'heure des profs de maths ici, qu'on qualifierait d'euclidienne. Des distances, une métrique, c'est tranquille. Vous allez commander votre demi ou votre café, vous allez payer la transaction avec de l'argent, et de manière tout à fait rationnelle, vous dirigez à nouveau vers votre place. Vous êtes dans un espace. Imaginez maintenant que vous êtes, comme dans certains de ces films, projeté en l'air, et alors vous voyez la planète qui se rétrécit, comme dans Google. Et à un moment donné, dans Google Space, et à un moment donné, vous allez voir votre ville toute petite. Et vous allez voir cette place. Cette place n'est plus un espace. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un point mathématique ? Pas du tout, parce qu'un point mathématique, il n'y aura rien dedans. Est-ce que c'est un point physique ? Avec un objet dedans. Mais non, puisque dans cette place, vous avez encore les pigeons, les tables, les chaises, les serveurs, les passants, les gens. C'est quoi ? C'est un lieu. C'est un lieu. C'est comme dans la relativité. Selon le référentiel que vous avez, selon que vous regardez ce lieu d'en haut ou que vous le regardez de dedans, vous avez un espace global ou un lieu local. C'est la même chose. Et c'est quoi la différence ? Ben, la différence, c'est les interactions. Lorsque vous regardez quelque chose d'en haut, tout pointu comme ça, c'est ce qui fait lieu. C'est-à-dire, ce qui fait lieu, c'est ce que les gens ont en commun à cet endroit-là. Ça s'appelle la co-spatialité. Et là, on a des relations. L'important, c'est pas la distance. C'est ce que les gens ont en commun ensemble. La mémoire, les rumeurs, les rancœurs, les orgueils, les intérêts particuliers, les crocs en jambes, les envies, toutes ces choses, les identités, les cultures... Tout ce qui font que ces gens-là font bloc à cet endroit-là et à ce moment-là. Évidemment, il y a la même relation entre ces interactions que j'appelle fortes et les interactions, les mêmes du même endroit quand vous êtes dedans, qu'il y a entre la physique classique et la physique des particules. C'est-à-dire aucun rapport. Enfin, aucun rapport évident ou intéressant. Ce qui veut dire pour nous qu'essayer de concevoir un grand mécano planétaire dans lequel on prend des décisions mondiales et on les transfère au local comme si le local allait agir raisonnablement et rationnellement, comme si ce local allait être comme ça, allait faire les choses qu'on lui disait de faire. C'est totalement idiot. Ça ne marche pas. C'est pour ça que lorsqu'on essaye de mettre en place des agendas 21 locaux, très souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un échec, même si on annonce que ça n'en est pas un. Pourquoi ? Parce que viennent se greffer dedans des considérations qui n'ont rien à voir avec l'application de l'agenda 21 et qui sont du local. Les animosités entre les gens, le bonhomme lambda qui a une maison et qui a peur que sa maison perde de la valeur si on met tel et tel équipement, telle et telle éolienne, l'opposant politique qui en profite parce que c'est une bonne occasion pour reprendre le pouvoir à la place de celui qui est là, le bonhomme qui va se dire que le traitement des déchets c'est bien sympa mais que ça coûte plus cher lorsqu'il faut les mettre dans la poubelle, et celui qui ne veut pas la poubelle en face de chez lui. Enfin, et celui simplement qui est contre tout parce que c'est, je trouve, grincheux et qu'il n'a pas envie de... Voilà. Et donc, à chaque fois, on se plante. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que local et global, ça n'a pas de sens. Par exemple, si on prend ce qui s'est passé avec le financier Madoff, en dehors du développement durable, on est dans du local. D'accord, c'est la planète. Mais on est dans des réseaux de relations, fondés sur la confiance, fondés sur la proximité. On est dans du local, même si c'est du planétaire. À l'inverse, on a des choses qui peuvent apparaître tout à fait locales au bon sens et qui ne sont pas locales du tout. Ces interactions fortes, vous les vivez tous les jours en salle de classe. Et les profs avec vous. Il ne suffit pas d'arriver en classe, donner son cours et être rationnel. Il y a des distensions, il y a des liens, il y a des amitiés. Et il y a une alchimie. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Ça, c'est les interactions fortes. C'est toujours la même salle. Mais vous avez des interactions de proximité. Donc, il faut qu'on repense dans le développement durable comment ces belles idées que l'on a au niveau mondial peuvent se traduire localement. C'est un vrai problème, parce que jusqu'ici, on a fait semblant d'imaginer que ça pouvait se faire comme ça, comme une espèce de mécano, et que ça allait marcher, ça ne marche pas. Bien. Continuons avec la troisième contradiction, c'est quand même la plus étonnante. La question des ressources. Et la définition des ressources et de ce qui est bon pour les générations à venir. Je trouve qu'il y a quand même une forme assez étonnante d'assurance, voire c'est presque un diktat. Et là aussi, c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire. Que d'imposer aujourd'hui aux générations à venir des choix que l'on fait nous maintenant. Là aussi, c'est un bon sens qui ne va pas de soi. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Dans les années 60-70, il était question, on était en plein dans le modernisme triomphant, et un projet prévoyait à Paris, sur la rive gauche de Paris, vous savez le quartier latin, de raser quasiment l'ensemble, à part les monuments et quelques îlots, et de mettre à la place des espèces de grands immeubles séparés par des grandes artères orthogonales. À l'époque, les citadins, qui étaient également très contents de leur modernité, aimaient bien les meubles en formica et les poufs sur lesquels on s'assied à boules de polystyrène parfaitement inconfortables. Bien. Je vous signale que ce genre d'environnement est tout à fait compatible avec le développement durable. Un bâtiment en bloc en hauteur, c'est tout à fait compatible avec le développement durable, on le dit sans arrêt, il faut densifier. Il suffit que le bâtiment soit à basse consommation d'énergie et on est content. Les grandes avenues, c'est pas forcément pour ça qu'il y a une circulation automobile, on peut aussi s'y déplacer à pied, en bicyclette ou faire des événements culturels. Donc c'est pas incompatible avec le développement durable. Les meubles en formica et en plastique, c'est génial, ça se recycle. On est en plein environnement. C'est fabuleux. Dites-moi, vous aimeriez, vous, que les personnes à l'époque aient envie de faire du développement durable et nous est imposé aujourd'hui, en détruisant tout un quartier historique, de vivre dans ce genre de machin, fut-il durable ? Pas vraiment, hein. Vous voyez, les meubles en formica, trucs en plastique, hyper inconfortables, dans des espèces de grands immeubles, complètement standardisés, avec des rues bien droites et rien au milieu. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous prouve que nous, aujourd'hui, les projections que l'on fait sur les générations à venir ne seront pas aussi fausses que celles qui ont été faites auparavant pour nous. C'est un vrai problème, Parce que d'un côté, il y a l'urgence. Il y a vraiment des problèmes écologiques importants sur la planète. De l'autre côté, il faut faire extrêmement attention avant d'engager des procédures qui peuvent être très très lourdes en termes d'équipement, d'infrastructure, de construction, etc., et qui engagent pourquoi 50, 100 ans, 150 ans. C'est quand même quelque chose à quoi il faut réfléchir. D'autant plus que, clairement, on n'a pas la même vision de ce qu'est cet avenir selon les endroits de la planète où on se trouve. Et que l'on a quand même aujourd'hui un diktat des pays du Nord. L'avenir, c'est pas la même chose si votre espérance de vie est de 80 ans ou si votre espérance de vie est de 30 ans. Ce n'est clairement pas la même chose. L'avenir, ce n'est pas la même chose si vous avez le ventre bien rempli et si vous vous demandez ce que vous allez manger le lendemain. Donc il y a là-dedans quelque chose d'extrêmement dirigiste et qui, à mon avis, est relativement inquiétant. Si je me situe en dehors du domaine de la morale, c'est également inquiétant parce que ce n'est pas efficace. Je vous explique. Je ne m'appelle pas Madame Sarfati, je vous explique. Donc, si vous vous situez, imaginons, est-ce que vous avez vu tous ces scénarios? Al Gore en fait quelques-uns dans son truc sur une vérité qui dérange. Est-ce que vous avez vu tous ces scénarios avec l'augmentation de la température de la planète à partir d'aujourd'hui? Moi, j'appelle cela, ces scénarios, le symptôme de la télé ou de l'écran. C'est-à-dire, c'est intéressant, tous ces scénarios partent de l'idée que les êtres humains sont assis sur un canapé et regardent sur un écran le monde avancer comme s'il n'en faisait pas partie. C'est une espèce de schizophrénie géante. En réalité, on est dans l'écran. Et en réalité, on est dans la partie. Ça veut dire concrètement que lorsque l'on fait une courbe où l'on nous dit dans 50 ans, la température de la planète va augmenter et ça va être la fin des haricots, je réponds, ce sera certainement la fin des haricots, mais ça risque pas d'augmenter comme ça. Parce que si la température commence à augmenter, admettons, comme certains de ces schémas le montrent, au bout d'une dizaine d'années ou de 5 années à ce rythme, que va-t-il se passer? On va avoir des catastrophes naturelles importantes, enfin dites naturelles importantes, qui vont donc avoir un coût économique majeur. On va avoir des mouvements de migration planétaire très très importants, qui vont donc avoir un impact économique majeur, avec des conflits et éventuellement des guerres à la clé. On va avoir sur les villes côtières des économies entières totalement bouleversées. Vous croyez qu'à ce moment-là, la courbe va commencer à continuer à augmenter? Bien sûr que non, puisqu'on aura changé les données de l'intérieur. Or, à aucun moment, cette espèce de commande de cerveau-mécanisme, hein, espèce de truc en retour où on ajuste, n'apparaît dans ces schémas. C'est comme si on était à l'extérieur du film, quoi. C'est assez étonnant, alors que non, je vous dis, on est dans le film. Donc, dans les scénarios à anticiper, il est important de voir que l'évolution, c'est pour ça que je parle de changement climatique plus que de dérèglement, si vous voulez, plutôt que de réchauffement. C'est vrai qu'il y a un changement climatique. Les gens qui disent qu'il ne se passe rien, dans le meilleur des cas, c'est une escroquerie intellectuelle. Dans le pire des cas, c'est de l'intérêt particulier bien ordonné. Il y a un problème. Mais la nature de ce problème n'est pas évidente. Enfin, depuis les histoires du Gulf Stream, du tapis du Gulf Stream qui peut s'arrêter, en passant par la modification de l'activité économique du fait des débuts de ce changement, on ne sait actuellement bien malin qui saura dire vers quoi on va. Enfin, en tout cas, pas moi. On va vers une situation chaotique, oui. Mais certains physiciens parleraient de situation chaotique. On va vers un nouveau système d'équilibre que l'on ne connaît pas encore. La vérité, c'est ça. Donc, il serait intéressant, cette troisième contradiction, d'essayer de voir quel est l'état d'équilibre vers lequel on va. Ce qui permet de terminer, encore une fois, sur les fameuses ressources, en disant, qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Renouvelable ou non renouvelable? Ce n'est pas évident à définir, c'est pas si simple que ça. À l'échelle géologique, vous savez, le pétrole, il est renouvelable. Hein. Et à l'échelle pas géologique, à notre échelle à nous, on nous dit aujourd'hui, on nous bassine en nous expliquant que le bois, c'est une énergie écologiquement respectable, et que les maisons en bois, c'est très bien, oui, en instantané, mais en réalité, non. Pour plusieurs raisons. Je vous les donne en vrac. La première raison, c'est que le bois, ça met du temps à pousser. Vous voyez? Ça pousse pas en 30 secondes un arbre. Et donc, si tout le monde se met à faire des maisons à ossature bois et à se chauffer au bois, au bout d'un moment, il n'y a plus d'arbres. Alors, ils ont beau se renouveler assez vite, mais enfin, ils ne se renouvelleront pas suffisamment vite pour répondre à la demande. La deuxième chose, c'est que la combustion au bois, ça reste une combustion. Et ça produit effectivement un certain nombre de problèmes. Je suis sur le comité scientifique du plan climat local de l'agglomération grenobloise. Actuellement, la principale source de pollution en microparticules dans l'air de l'agglomération grenobloise, vous savez ce que c'est ? Les chauffages en bois des écolos à truc ouvert, qui ont mis du bois à la table du mazout, et qui n'ont évidemment pas les filtres correspondants à la santé. Bon, c'est quand même effectivement un problème, quoi. Le bois, il est donc difficile de se renouveler pas instantanément. Il possède un certain nombre de nuisances. Donc voilà, typiquement, le type de ressources renouvelables qui ne l'est pas tant que ça. Le sol aussi, ça se reforme. Hein. Un sol, ça se reforme en plusieurs millions d'années. Milliers d'années, n'exagérons pas. Bon, donc effectivement, faites des agrocarburants, plantez du colza, épuisez le sol, ce sera renouvelable, mais dans combien de temps ? Donc la différence entre renouvelable et non renouvelable, c'est franchement, c'est pas évident du tout. Du tout, du tout, du tout. Et ça pose la question de savoir ce qu'est une ressource. Vous savez, dans les pays du Moyen-Orient, il y avait du pétrole depuis longtemps. Mais jusqu'à il y a quelques siècles, ça servait uniquement à calfeutrer les bateaux, éventuellement les berceaux. C'est tout. Et éventuellement aussi à allumer des lampes à pétrole ou autre. D'ailleurs, pas lampes, comme à huile, mais avec de la nafte. Mais c'est tout. Ce qui fait que le pétrole devient une ressource, c'est qu'au départ, c'était un objet de l'environnement et que cet objet est susceptible d'usage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ressource ? C'est un objet de l'environnement dont on décide de faire usage. Le silex était une ressource néolithique, il ne l'est plus aujourd'hui. Ça veut dire que les ressources sont évolutives et que quand on engage les générations à venir dans l'utilisation des ressources, il faudrait quand même se poser la question de savoir lesquelles vont réellement être utiles. Je caricature un peu, c'est de la provocation, ça parce que c'est pas vraiment à 100% ce que je pense, mais quand même, une bonne partie. Je pense que c'est un peu simpliste, mais c'est simpliste, mais c'est pas faux. Vous savez, si à l'époque du néolithique, on avait eu envie d'économiser les gisements de silex et autres pierres qui servaient à faire biface ou autre, bien, parfait. On en aurait certainement beaucoup aujourd'hui. Je ne suis pas certain que la trajectoire de l'humanité aurait été la même. Et qu'on serait là aujourd'hui en train de se parler. Donc voilà, je voudrais finir juste là-dessus, en vous donnant un exemple où on nous dit toujours, on vous présente toujours de manière alarmiste, la peur, vous savez, la peur. Il n'y a pas une grande différence entre un discours sécuritaire fondé sur la peur et un discours écologiste fondé sur la peur. C'est la même peur. C'est la même peur. Elle n'est pas véhiculée de la même manière, mais c'est de la même peur qu'il s'agit. C'est pareil. Alors, l'être humain, il paraît que c'est un incorrigible gêneur et que la nature, elle est souillée par l'être humain. C'est épouvantable. Enfin, je vais vous donner un contre-exemple. Un seul, je n'ai pas le temps d'en donner plus. Et je termine. C'est en Normandie. Ça peut être ailleurs. On est au Moyen-Âge. Les gens se multiplient parce qu'ils ont de quoi manger. Donc, ils font des gamins qui ne sont pas trop mal nourris, qui sont dans des conditions sanitaires convenables. Alors, les familles sont de plus en plus nombreuses. Ce sont des familles paysannes. Elles vivent de la terre, leurs maisons sont en bois. Il faut donc défricher. Et il faut donc construire en bois et se chauffer en bois. C'est pas parce que c'est écolo, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et au bout d'un moment, il y a tellement de monde que deux problèmes se posent. On n'a plus de bois pour se chauffer. Et puis, un deuxième problème se pose. Les terrains et les propriétés sont tellement entassés les unes sur les autres et collés que on ne sait pas très bien comment faire pour éviter les conflits de voisinage qui sont nombreux. Et un conflit de voisinage au Moyen-Âge, ça saigne. Hein. On ne va pas voir le juge pour faire un procès. En règle générale, on tue quelqu'un, et donc il y a le prix du sang, donc l'autre il va tuer l'autre, ça peut être assez saignant. Donc on a trouvé une solution pour pacifier tout ça. Ça a été de séparer les terrains par des buttes de terre. Et sur ces terres, on a planté des ligneux, des petits ligneux, parce que ça permettait d'avoir du bois de chauffage. Vous savez ce qu'on a fait ? Des bocages. Les bocages, ils n'ont pas été faits parce qu'on voulait que ce soit écologiquement bien. Ça a été fait dans ce contexte-là, pour cette situation-là, pour éviter les conflits de voisinage, pour avoir du bois de chauffage. Résultat, réservoir de biodiversité, coupe-vent, éponge pour éviter le ruissellement des eaux, enrichissement des sols, super chouette. Juste pour vous dire, l'être humain, quand il fait un truc, il faut arrêter de culpabiliser tout le temps, c'est pas forcément la catastrophe. Voilà, je vous remercie. Sauf quand je suis à jeun, donc comme là j'ai mangé, ça va. Donc je peux vous mordre, vous pouvez y aller. Là. Il y a une question, il y a une réponse.
Voilà, vous dites que non, on va anticiper, que le problème n'est pas fini et que donc on va réagir. Aujourd'hui, quelles sont les réactions que nous avons face à ce monde qui est en mouvement et qui bouge et face aux nouveaux enjeux environnementaux?
Alors là, c'est une question qui est assez intéressante, parce que c'est une question qui n'a pas vraiment, enfin selon moi, bon, je pourrais sortir en bloc le Grenelle de l'environnement, les biocarburants, les critiquer en disant que finalement il y a des énergies renouvelables et qu'on ne fait pas assez, mais c'est une réponse qui serait extrêmement technique, et qui en fait serait une manière, par exemple, vous savez, on a un mur devant soi, il y a deux manières de faire, quoi. Soit on cherche le moyen d'en faire le tour, de le grimper, etc. Soit on passe son temps à regarder, on connaît toute la composition des pierres, mais le mur est toujours là. Donc, on peut rentrer dans ces trucs techniques, mais j'ai peur qu'en le faisant, on noie un peu le poisson. Donc, la situation, elle est la suivante. Moi, je fais un constat. Mon constat, c'est que effectivement, on est dans une situation qui est dramatique au niveau planétaire, sur plusieurs plans. Sur le plan des ressources dites naturelles, enfin des ressources quand même, évidemment, elles risquent de se dégrader à un rythme tel que l'on n'aura pas le temps de trouver des substituts. On a un problème en termes de dérèglement climatique qui paraît bien lancé. On a un problème en termes de lien social, ça aussi c'est de l'environnement. Nos sociétés se durcissent, les gens, des relations humaines se durcissent. On est dans un monde qui est de plus en plus conflictuel. On a des problèmes sur la qualité de l'eau, par exemple. Donc on a des problèmes de ce type. Bon, les réponses qui y sont apportées, honnêtement, ne me semblent pas satisfaisantes. Parce que il y a une instrumentalisation, pour moi, des choses, de part et d'autre. Il y a quelque chose que l'on appelle en économie le comportement du passager clandestin, qui consiste à dire que je vais, par exemple, demander un comportement vertueux à tout un tas de gens, mais moi-même, je vais m'exonérer de ce comportement vertueux parce que je me dis que ça passera inaperçu. Ma pollution à moi, mon action à moi passera inaperçue en fonction de ce que j'aurais demandé aux autres. Or, souvent, on est dans des configurations, que ce soit les États, les personnes, les collectivités territoriales, les entreprises, dans des logiques qui sont des logiques de ce type. Je fais un véhicule hybride, mais je vais fabriquer ce véhicule en Chine dans des conditions polluantes épouvantables dont je ne dirai rien à personne. Je vais avoir une ville extrêmement propre, mais je vais virer mes déchets en Côte d'Ivoire. Je vais avoir un comportement écologiquement responsable parce que je vais dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais je vais, moi, m'exonérer des choses que je dis aux autres de faire. Et même au niveau individuel, Je vais être un, je ne vais pas dire bobo, je vais dire je vais être un urbain, jeune, vieux, enfin peu importe, hein, je ne sais pas comment on dit, enfin, faire un parti sauf pour la suite, et je vais être en vélo dans la ville parce que je trouve ça très très bien, et en même temps je vais aller conduire mes gamins à l'école en 4x4. Ah. C'est quelque chose qui est humain et qui est présent de manière importante. C'est l'instrumentalisation. C'est un mouvement écologiste qui pourrait porter vraiment des vraies aspirations et qui va instrumentaliser le débat en le fondant sur de la peur. Ça va être des industriels qui vont faire semblant de faire du développement durable parce que les produits se vendent mieux. C'est ça à quoi moi j'assiste. Même si l'emballage est assez beau, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un véritable mouvement de fond, qu'il y ait une véritable conscience de l'intérêt commun à l'avenir. Ça m'inquiète. Malheureusement, au stade où moi j'en suis, à la place qui est la mienne, la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes, les décoder, donner des solutions quand j'en ai pas toujours, dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais après, c'est pas moi qui fais, je suis pas ministre, enfin pas encore. Non, je plaisante. Bon, donc je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple de ce genre de choses qui est tout à fait simple. Je ne vais pas citer la ville, hein, parce que bon, après je me ferai incendier et que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec des gens. Mais il y a des villes qui favorisent le chauffage urbain. Le chauffage urbain, ça va être le fait d'avoir des grandes canalisations, en gros, sous les rues, qui vont permettre de chauffer l'ensemble des immeubles. Et puis, en même temps, ces mêmes villes vont, et c'est écologiquement vertueux, et ces mêmes villes vont avoir une politique de valorisation matière des déchets. Ça veut dire qu'on va faire un tri sélectif. Eh bien, on va avoir très rapidement un problème. Pour faire marcher le chauffage urbain, il faut de l'incinération des déchets. Mais si on traite tous les déchets et qu'on les valorise en matière, on n'a plus rien pour le chauffage urbain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être ça dans d'autres villes aussi. On va vous mettre 3 poubelles, et bizarrement, on va vous dire, vous regarderez, c'est peut-être le cas ici, moi j'en sais rien, sur la poubelle papier et plastique, on vous dit qu'il faut mettre les poubelles, les papiers et les plastiques dans des sacs hors de sacs ouverts. Si vous êtes dans un sac poubelle, ce n'est pas traité. Et pourquoi diable? Parce que le sac poubelle, il est en plastique aussi, hein. Et quand vous regardez les gens qui font les traitements de déchets, ils donnent un coup de canif et ils ouvrent. Alors pourquoi diable, tout à coup, quand les papiers et les plastiques sont dans un sac poubelle fermé, ne pourraient-ils pas être traités? Parce que s'ils ne sont pas traités, ils sont incinérés. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ça permet de percevoir la taxe sur le traitement des déchets, tout en incinérant la majorité des déchets et en les repassant en chauffage urbain. Ce genre d'attitude, ça n'instaure pas la confiance. Vous voyez? C'est pas le genre de truc qui fait du bien. Et c'est quelque chose d'assez général. Une deuxième chose, une préconisation, un truc tout simple, c'est purement financier, que l'on revienne à des taxes affectées. Jusqu'ici, l'orthodoxie économique, c'est de dire quoi? C'est de dire les taxes, elles doivent être non affectées. C'est-à-dire que quand on paye des impôts, des taxes ou autres, ça va dans le budget de l'État qui redistribue, parce que peut-être aujourd'hui ce sera l'enseignement qui est important, demain il y aura peut-être des inondations ici, le surlendemain il y aura peut-être des problèmes liquiditaires, et le surlendemain il y aura peut-être des problèmes sur l'emploi, et ça permet d'avoir un volant de manœuvre. Or, la lisibilité pour la population est catastrophique. Si on leur dit vous allez payer tant en plus une taxe carbone sur la dépense de votre voiture ou les couverts en plastique, si on veut que ce soit acceptable par les personnes, il faut qu'ils voient à quoi ça sert après. S'ils ne voient pas à quoi ça sert en aval, il n'y a plus aucune confiance qui est instaurée. C'est la vignette pour vieux qu'il y avait auparavant dans les voitures, qui était censée financer les personnes âgées. Jamais aucun petit vieux n'en a vu la couleur, hein, de la vignette pour vieux. C'était un impôt supplémentaire. Donc ça, vous voyez, c'est des trucs extrêmement simples, hein, c'est pas très cosmétique, ça se voit pas, mais c'est le genre de choses qui peut permettre d'instaurer un minimum de confiance, quoi. Alors, moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on s'agit beaucoup, on agit relativement peu. Il y a beaucoup de mesures cosmétiques, et clairement, je suis très inquiet, pas pour l'avenir de la planète, pour la société dans laquelle on est en train de s'acheminer. Voilà. Une société dans laquelle, si le climat est trop chaud, nous serons tous sous verre avec des climatiseurs qui coûteront cher, dans lesquels les précarités sont très importantes, dans lesquels des mouvements de population très très importants de pays du Sud, parce qu'eux ne résistent pas au mouvement climatique, s'agglutineront aux frontières avec une politique policière extrêmement dure. Voilà, c'est ce monde-là qui me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on y va tout droit. Techniquement, les choses qui se mettent en place, pour moi, actuellement, Je crois qu'il n'y a pas de technique sans société. Le problème n'est pas de savoir si on va utiliser des véhicules hybrides ou pas hybrides. C'est de savoir si on a besoin de se déplacer autant. Ça, c'est une question. Et le reste à l'avenant. Je crois qu'il y a une autre question. Je parle beaucoup, hein, c'est catastrophique. Oui ? C'est une question qui est difficile, parce qu'on est dans une logique, ça risque d'être dramatique dans les années.
Non,
ouais.
On parle pas grand-chose.
Bah, c'est-à-dire, on parle beaucoup pour pas grand-chose. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, vraiment très intéressant. Parce que ça marque un type de fonctionnement qui est le nôtre. Pas de pensée, ne pas penser. En américain, on dit ça, une approche push-button. J'appuie sur un bouton, ça se déclenche. Merde, ça ne déclenche pas, bah, je tape dans la machine, il faut que ça marche. C'est-à-dire... Attends, j'attends. Donc, ça veut dire, en gros, moi j'aimerais bien avoir des réponses tout de suite. Je fais un constat qui est négatif. Je n'ai pas les réponses. Vous n'avez pas les réponses. Je pense que la solution, c'est de se mettre à aller chercher ensemble les réponses. C'est pas parce que... Il y a parfois des réactions que l'on a tout de suite et qui sont des fausses bonnes solutions. On a mis des filtres dans les voitures pour éliminer à une époque les productions de gaz carbonique et d'un certain nombre de plomb. Et on s'est retrouvé avec des productions de benzène dans l'habitat, hautement cancérogène. Donc je pense que ce que l'on ne prend pas, c'est le temps de la réflexion. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que les choses aillent mieux? Oh, je peux vous donner quelques solutions quand même. Oui, je peux en donner. D'abord, travailler au cas par cas. C'est-à-dire, les solutions qui sont bonnes ici ne sont pas bonnes là-bas. Arrêtez de faire des solutions qui sont globalisantes. Le chauffage au bois, oui, à condition qu'on soit dans des collectifs avec des filtres, et à condition que l'on utilise les déchets de bois, et pas qu'on aille couper des forêts pour ça. C'est du cas par cas. Faire en sorte que les comportements des gens soient vertueux, oui, mais ça suppose une vie communautaire. Ça suppose qu'il y ait des communautés de voisinage, que les gens passent partie de la vie publique, s'intéressent à la vie publique. Ça se crée. Si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Mais j'ai pas une solution universelle. Actuellement, je crois qu'il faut quand même qu'on réfléchisse beaucoup, qu'on essaye de mettre en place des modes de décision différents, que ceux qui existent, et qu'il faut à chaque fois analyser au cas par cas et ne pas avoir des solutions englobantes parce qu'elles ne marchent pas. Voilà. Au-delà, moi je peux pas, j'aimerais bien avoir des solutions, je suis comme vous, mais je ne les ai pas. Par contre, je préfère mentionner les trucs qui posent un problème parce que c'est important, plutôt que de se dédouaner en ayant l'impression que, vous savez, le Titanic est insubmersible, donc il ne peut pas couler. Et s'il est en train de couler, c'est pas grave, il ne coule pas. Et si quelqu'un dit qu'il va couler, c'est un annonciateur de mauvaises nouvelles. Oui, le Titanic coule et on a le temps de faire ce qu'il faut, à condition qu'on se mette à le faire. Voilà. Mais moi, j'ai pas de solution. Parce que le fait que le Titanic coule, elle est là. Le fait que la planète aille mal, c'est un fait. Il y a des générations qui l'ont fait. Donc j'ai bien quelques idées que je peux vous donner comme ça. Surtout pas de grands effets d'annonce. Surtout pas de programmes internationaux qui couvrent tout et n'importe quoi, totalement globalisants. Voilà. C'est ça qu'il faut éviter. Je crois qu'il faut être vigilant. C'est une question de vigilance. On a actuellement dans les plans climat locaux la possibilité de créer des permis d'émission négociés. C'est-à-dire de... Ça va venir. Hein. C'est-à-dire une ville, par exemple, qui aurait un puits carbone, c'est-à-dire des espaces verts, des endroits qui permettent de conserver du carbone, d'accord, d'en produire, enfin de capter du carbone, donc de ne pas en produire. Ces endroits-là, eh bien, il serait, normalement, il pourrait vendre ça sur un marché, comme une action, je simplifie, à des autres villes qui n'auraient pas ça et qui dépasseraient la production de, enfin, l'émission de gaz carbonique prévue, d'accord, dans les horizons 2020 et 2050. On peut voir une diminution de la quantité de gaz carbonique. Bon, eh bien, ça, c'est une mesure qui, à mon avis, devrait être retirée. Pourquoi ? Parce que je vais favoriser grâce à ça un développement très très peu dense et le mitage dans les banlieues et ailleurs, parce que ça permettra artificiellement, dans une ville plus étalée, de créer plus d'espaces verts. Voilà, pof, une solution. Mais je ne peux pas avoir une solution universelle, je pense que ce serait une erreur d'avoir une solution universelle pour vous. Voilà. Le plus grand frein au développement durable aujourd'hui, il y en a plusieurs. Je pense pas que ce soit l'argent. L'habitude. Non, si je devais dire ça en un mot, les habitudes et les intérêts particuliers, qui ne sont pas forcément des intérêts d'argent. Mais pour ça, je suis d'accord, mais alors je suis d'accord avec vous, mais à 100%. Seulement là, c'est pas un type qui parle du développement durable, c'est de géopolitique qu'il s'agit. Pourquoi laisse-t-on faire ça? Je veux dire, c'est même au-delà des développements durables, là. Il y a des populations qui vivent là, il y a des populations qui sont spoliées, il y a des véritables problèmes. Mais là, on est dans de la politique à l'état brut. Bien sûr qu'il y a du développement durable dedans, mais pas seulement. C'est pour ça. Moi, je peux pas intervenir en Amazonie pour empêcher la déforestation de l'Amazonie. Mais c'est un vrai problème, mais il n'y a pas que là. Ensuite, par contre, vous dites quelque chose, vous n'en êtes pas responsable. Quand je parlais des habitudes, je vais vous donner un exemple simple, vous allez vite comprendre. C'est un exemple extrêmement simple, ça se passe en Suisse. En Suisse, on a décidé de développer une filière, et les gens étaient tous d'accord, parce que les Suisses, ils sont écologiquement responsables, une filière dans laquelle on allait faire de la valorisation matière à outrance, très très précise, avec plein de sélections, c'est dans le canton de Vaud. Plein le papier plastique, le verre, les déchets organiques, compost et les non-organiques. Et ça coûtait effectivement cher. Et donc, parce que les Suisses sont également des gens très responsables sur le plan social, économique, ils se sont dit, il faut que les gens payent pour ce qu'ils produisent comme déchets. Il n'est pas question de faire un truc global, parce que sinon les gens vont en mettre plus, et donc on va pas s'en sortir. C'est clair jusque-là. Et donc ils ont décidé de faire payer les déchets produits. Alors, je ne me rappelle plus si c'était le volume ou si c'était... Si, au départ, c'était au volume. C'est-à-dire que lorsque les gens mettaient leurs déchets dans les ordures, dans les bennes à ordures, là, dans les différents trucs, eh bien, selon le poids de déchets, ils étaient taxés à la fin de l'année. Et ils avaient demandé ça, hein. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont acheté des compacteurs pour compactifier les déchets, pour qu'ils aient moins de volume. Et du coup, il y avait un petit problème de traitement de volume trop dense. Les gens, vous, moi, pas le grand capital, vous, moi, tout le monde ici, les familles, normales, pour économiser 3 francs 6 sous, passagers clandestins, le comportement. Et puis, on s'est rendu compte de ça. Alors, ils ont décidé de faire au poids. Et vous savez ce qui s'est passé actuellement? Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Helvétique, là, je ne me rappelle plus quoi, sur, je ne me rappelle plus du nom, sur ces déchets. Et actuellement, les sols sont plus pollués en furane et en dioxine, c'est-à-dire les produits des incinérateurs qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, pour diminuer leur production de déchets, les brûlent dans leur jardin, sans filtre. Les gens, vous, moi. Donc autant culpabiliser les gens à outrance, comme on le fait maintenant, je ne suis pas d'accord, autant considérer que tout vient des grands conglomérats industriels, etc., serait une erreur. Il y a dans nos comportements des choses, et quand je parle des habitudes, c'est ça que je parle. Nos habitudes, nos manières de vivre, la mienne aussi, hein, sont des facteurs de dégradation de l'environnement dans lequel on vit. Nos comportements, nos habitudes. Et c'est vrai aussi pour des industriels. Pourquoi est-ce qu'on... Mais c'est vrai jusqu'aux gros industriels. Pourquoi dans le domaine des travaux publics, est-ce que l'on n'est pas dans des normes de qualité beaucoup plus strictes? Pourquoi est-ce que les bâtiments basse consommation sont aussi chers, alors qu'en réalité, il y a un gain, mais un gain direct, économique en plus, gagne de l'argent. Il y a eu tout un tas de simulations. Pourquoi est-ce que ce gain économique n'est pas pris en compte? Et pourquoi est-ce que ces constructeurs s'obstinent à ne pas faire du bâtiment basse consommation? Parce que les gens n'en veulent pas, si l'apparence ne leur plaît pas, c'est pas le logement qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et parce que les constructeurs n'ont pas le savoir-faire nécessaire et que ça les embête d'aller l'acquérir, ils savent pas faire. Voilà, l'habitude. Pourquoi est-ce que des compagnies pétrolières plus importantes continuent à s'obstiner, enfin, ou des constructeurs de voitures, à construire des voitures du type de celles qui existent actuellement, plutôt que d'autres, que l'on pourrait déjà construire plus performantes? Très simple. Parce qu'ils ont peur, s'ils les produisent, de se retrouver bouffés par la concurrence si jamais ça ne marche pas. Et par conséquent, ils préfèrent ne rien faire en attendant que les autres le fassent. Pareil, l'habitude. Oui, je pense que le problème le majeur, c'est l'habitude. C'est le fait de ne pas pouvoir renoncer à des modes de comportement. Et ça, c'est à tous les niveaux, à toutes les échelles. Oui ?